Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau débat de Radio Ndekeluka et merci de vous savoir très nombreux à l'écoute de Patara, le débat politique du premier média centrafricain. Il est consacré aujourd'hui aux conditions dans lesquelles exercent les travailleurs centrafricains et pour corroborer le 26 avril dernier, le monde a célébré la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, de la vie des observateurs sociaux, les travailleurs centrafricains dans des conditions précaires d'une part et d'autre part. Ils ne remplissent pas bien leurs devoirs vis-à-vis de la population ou bien des usagers des services. Nous allons dans un instant et avec nos invités discuter de cette question du travail en République centrafricaine en prélude au 1er mai fête du travail. Le plateau Patara d'aujourd'hui reçoit M. Firmin Zopongiré. Bonjour.
Bonjour. Monsieur Armando.
Vous êtes secrétaire général du groupement syndical des travailleurs de Centrafrique, GSTC. Sosten Guitel, bonjour. Et Dinam Koro. Hein.
Bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Armando.
Président du Parti panafricain pour les libertés et le développement, membre de l'opposition démocratique. Alexis Nduyabela, bonjour.
Bonjour, Armando.
Cadre du parti au pouvoir MCU et conseiller politique du président de l'Assemblée nationale, Ekrepeng Bomaï, jeune leader d'opinion et secrétaire général adjoint du colloque des étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Bangui. Kofleshba, monsieur, bonjour.
Bonjour, Armando Ngendi.
Oui, c'est moi. Si vous venez de nous rejoindre, nous parlons du travail en prélude à la célébration de la fête du travail où tous les travailleurs sont honorés et c'est dans le débat politique de Radio Ndekeluka.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Merci beaucoup de nos jours. Hein, dans quel état d'esprit les travailleurs centrafricains célèbrent le 1er mai fête du travail, M. Zopongiré?
Non, je dois tout d'abord saisir cette opportunité que vous m'offrez pour souhaiter bonne fête du travail à tous les travailleurs du secteur public, du secteur privé, du monde rural, des agriculteurs, des éleveurs, des taximotos, pour leur souhaiter bonne fête. La question que vous me posez, dans quel esprit? Moi, je pense que aujourd'hui nous sommes dans une situation, comme vous le savez, dans une situation de guerre, comme on le dit. On ne peut pas aujourd'hui dire que tout va bien. Nos amis aussi agriculteurs, éleveurs, ceux qui sont des pêcheurs, travaillent dans des conditions difficiles. Mais la situation, d'une manière générale, comme je dis, ceux du secteur public sont en train de travailler. Je pense que ceux du secteur privé aussi sont en train de travailler. Mais les conditions, comme vous le dites, c'est une condition, la situation elle est mitigée. Hein, aujourd'hui, vous êtes censé savoir que dans certains cas, aujourd'hui, les travailleurs, comme on le dit, du secteur public travaillent dans des conditions, pour d'autres, dans des conditions meilleures. La première miroir, c'est quand vous voyez l'administration publique au niveau du building, vous allez voir que ce n'est pas comme avant, où la situation, ils travaillent dans une condition aussi de vétusté. Il n'y avait pas de lumière aujourd'hui, il n'y a pas de questions sanitaires. Mais aujourd'hui, quand vous voyez un peu au niveau du building, il y a une nette amélioration. Et n'eût été pas la guerre au niveau, par exemple, des provinces, la réhabilitation de l'administration publique, il faut le dire, était quand même acceptable parce qu'ils étaient dans cette condition. Mais la guerre est venue aussi remettre en cause tous ces efforts. Donc, on peut le dire, c'est mitigé pour ceux du secteur privé. Ils essaient au mieux d'être réhabilités, comme vous l'avez constaté, dans les banques, dans les trucs, etc. etc.
Oui, ça, vous l'avez déjà dit. Bon, donc, ça vous va bien, on y revient. On y revient, okay. Et pour mieux comprendre. Monsieur Nduyabela, vous représentez le pouvoir public dans ce débat d'aujourd'hui. Quelle appréciation faites-vous, puisque déjà, au niveau des travailleurs, hein, cette appréciation, elle est donc mitigée hein, des conditions de travail de ceux-là?
Oui, mais il faut comprendre que nous sortons d'une situation de crise hein, qui remonte à 2013 et tout a été détruit, le pays a été chaos et par terre. Et donc le gouvernement actuel, depuis le retour à l'ordre constitutionnel, s'efforce de reconstruire le pays. Donc naturellement, comme il a dit, c'est dans cet état d'esprit qu'on doit comprendre les choses. Sortant d'une situation de crise, tout est à reconstruire. Et on est dans cette dynamique progressivement, autant dans le secteur public que dans le secteur privé. Les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, puisque la priorité du gouvernement, c'est restaurer, c'est la priorité, la paix et la sécurité. Pour que les travailleurs vaquent librement à leurs occupations, il faut naturellement qu'il y ait la paix. Et donc le gouvernement a focalisé hein, le premier quinquennat sur cet aspect sécuritaire, faire rentrer la paix, rétablir l'ordre constitutionnel, faire régner l'autorité de l'État, tant au niveau de Bangui que dans les rares pays. Et donc progressivement, cela s'est fait. Et donc, c'est puisque l'État a le pouvoir de garantir la sécurité des uns et des autres, et donc les jalons ont commencé déjà à être posés. Et donc progressivement, nous sommes en train d'aller dans ce sens-là. Et donc, petit à petit, comme on le dit, l'oiseau fait son nid, et donc on est en train d'aller progressivement pour que chacun vaque librement à ses occupations et que ce soit les travailleurs du secteur privé, ceux qui sont dans le domaine agricole, etc., vaquent librement. C'est vrai que la situation est mitigée, mais il faut dire que c'est compte tenu du contexte assez difficile que le pays a traversé depuis 2013. On n'est pas dans les autres conditions, hein, d'autres pays où bon, il n'y a pas la guerre. Et c'est comme là en Ukraine, tout est détruit et puis maintenant après, bon, ben, il faudrait qu'il reconduise. Mais ça prendra un temps et c'est le temps que le gouvernement prend en ce moment pour redonner confiance à tous les travailleurs.
Monsieur Guitel, hein, la vision de l'opposition de cette célébration du 1er mai fête de travail.
Merci Monsieur Armando. Je crois que du point de vue de l'opposition, je crois que c'est un regard critique que nous allons porter sur la célébration ou les célébrations qui sont faites à l'occasion de chaque 1er mai dans notre pays. Parce que lorsque nous regardons l'historique de cette célébration, c'est une journée qui est consacrée aux revendications des travailleurs. En réalité, je pense que c'est ça qui devait être posé sur la table. C'est l'occasion qui est donnée aux travailleurs de pouvoir se prononcer sur leurs conditions de travail, sur leurs conditions de vie. Et malheureusement, comme à l'instar de certaines fêtes que nous connaissons dans notre pays, comme la journée des martyrs que je connais, qui sont vidées de leur substance, nous avons constaté l'accaparement de ces journées-là par le politique. Et vous savez que lorsque le politique récupère une célébration, c'est à des fins, pour obtenir l'adhésion des autres. Au lieu qu'il y ait des critiques, c'est plutôt l'adhésion. Et c'est là où on est en droit de se poser la question, le comportement des leaders censés représenter les travailleurs. Si je dis ça, de mémoire de citoyens, nous avons dans l'histoire de ce pays-là des gens qui ont porté haut la lutte pour les conditions des travailleurs. Je peux citer avec beaucoup de respect M. Sioni Kolé. On peut également citer les Emoniako, à l'époque, qui ont donné leur vie pour la cause des travailleurs.
Pour défendre les travailleurs.
Aujourd'hui, depuis pratiquement 2 décennies, sinon 3-4, on se rend compte que c'est beaucoup plus des arrangements qui se font au détriment des travailleurs. Cette journée qui devait en principe, moi je pense que, je ne sais pas si je n'ai pas suivi le programme de Ndeko de la semaine, on devait avoir des séquences d'émissions où les leaders devaient monter au créneau pour dénoncer la condition de vie, la condition de travail, tant dans le privé que dans le public. De cela, rien. C'est les festivités qui intéressent tout le monde. C'est les défilés qui intéressent tout le monde. C'est les retrouvailles qui intéressent tout le monde. Et plus grave encore, vous savez, aujourd'hui, il y a presque un désamour entre les travailleurs et les leaders syndicaux. Un désamour. Je me rappelle à l'époque, lorsque Sioni Kolé, par exemple, convoquait une réunion, mais la bourse du travail était pleine à craquer. Aujourd'hui, mon frère en face, Zopongele, quand il convoque une réunion, je ne sais pas à peine combien de personnes il peut réunir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a une crise. Aujourd'hui, les travailleurs ne se reconnaissent plus. Les travailleurs se sentent abandonnés. Et c'est dans ce contexte-là que demain, les gens vont aller défiler, les gens vont aller célébrer. Et pire encore, vous savez que, comme je parle d'arrangement, il y a un régime dans ce pays, sous Bozizé, où pratiquement le poste de ministre de la fonction publique était réservé aux leaders syndicaux. Depuis quand on a vu ces choses? Et lorsque je dis que les célébrations sont récupérées par le politique, vous allez voir en France, est-ce que vous allez voir Macron venir assister au défilé des travailleurs? Non, certainement que demain, on verra les travailleurs se balader dans Paris avec des slogans pour revendiquer leurs conditions de travail, leurs conditions de vie, et ainsi de suite. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, je pense que c'est une célébration.
Oui, il y a beaucoup de choses à dire.
On va certainement revenir là-dessus, dans les détails, mais pour le moment, je crois que...
On va écouter les opinions ou bien la vision ou bien les critiques, les appréciations des jeunes centrafricains, des jeunes débrouillards, des jeunes intellectuels. Krepeng Bomaï, vous êtes parmi les débatteurs d'aujourd'hui. Quelle appréciation faites-vous du travail dans ce pays?
Merci beaucoup Armando. Je pense qu'au-delà de cette appréciation, il y a beaucoup des aspects qui rentrent en compte. Il y a un de mes débatteurs qui vient de dire qu'au niveau de Bangui, tout va bien. C'est une phrase qui fait un peu rire. Mais puisqu'il s'agit ici d'un point de vue, donc il faut respecter. Parlons des conditions de travail, parlons de l'appréciation des jeunes vis-à-vis de cette question. Je pense que du coup, c'est avec beaucoup de désastres qu'il faut porter cette appréciation. Parce que on le dit que la forteresse d'une nation réside dans la rage progressiste de sa jeunesse. Aujourd'hui, nous avons quel type de jeunesse? C'est une question qu'il faut, n'est-ce pas, soulever. Cette jeunesse occupe quel type de place ? Cette jeunesse occupe quel rang dans les administrations publiques ou privées ? Je pense que cette appréciation serait trop négative. Négative en ce sens que la jeunesse est toujours portée au second rang. Au second rang dans tout ce qui concerne la question de travail. Et donc, du coup, ça nous laisse à comprendre que cette possibilité d'affirmation de cette jeunesse est trop mitigeuse. Très mitigeuse en ce sens que il n'y a pas une volonté politique, pas une volonté du pouvoir, il n'y a pas une volonté du gouvernement en ce sens vis-à-vis de cette jeunesse. Et du coup, on se retrouve à seul. Et puisque on est jeune, on n'a pas cette possibilité-là d'avancer parce qu'il y a des blocages qui sont
devant. Vous parlez de blocages, c'est quoi ? C'est dans les stages, dans la formation, etc. ou bien ?
Le stage se situe à tous les niveaux. Et s'il faut citer, je pense que nous allons prendre beaucoup de temps. Par exemple, la question du stage. Vous comprenez déjà avec moi que trouver rien que le stage, c'est déjà un réel souci. Et aujourd'hui, tu es jeune, c'est bien. Tu as les diplômes, c'est bien. Il y a des jeunes qui ont cette possibilité. Il y a des jeunes qui sont bien calés. Mais qui n'ont pas cette possibilité-là d'avancer parce qu'ils sont des jeunes. Ça, c'est le seul et unique péché qu'ils ont. Et donc, je pense que question de blocage, c'est à tous les niveaux, en tout cas, Armando.
Avant d'entrer dans le vif de notre sujet de discussion démocratique d'aujourd'hui, place maintenant à notre reporter Maxime Joël Alaï, qui nous présente ici l'état des lieux des institutions centrafricaines et la sécurité au travail.
La sécurité au travail est loin d'être une réalité dans certaines institutions publiques à Bangui. Plusieurs fonctionnaires et agents de l'État travaillent dans des conditions précaires. Certains préfèrent garder le silence pour éviter d'être réprimandés par la hiérarchie, tandis que d'autres veulent bien exposer le problème en public pour que des solutions soient trouvées. C'est le cas de Joseph Selengaï, directeur des ressources au ministère des Eaux et Forêts, qui travaille dans de mauvaises conditions.
Nos conditions de travail en tant que fonctionnaire de l'État, vraiment ça laisse à désirer. Vous êtes dans mon bureau, voyez comment je suis installé, avec des paperasses, des vieux documents, de quoi. Parce qu'il n'y a pas de place au niveau de notre service de documentation, c'est saturé. Et même la toiture de cette documentation coule lorsqu'il pleut. Le système de climatisation, il n'y en a pas. Et les fonctionnaires centrafricains souffrent.
À la mairie de Bangui, le constat de l'environnement de travail est déploré par le personnel qui refuse de s'exprimer sur le sujet. John Maramba est venu récupérer ses papiers. Il est surpris d'observer le climat de travail au niveau de la mairie centrale.
Déjà en entrant, l'endroit ne ressemble pas à une mairie. Les portes sont cassées et les peintures sont également dégradées. L'environnement ne reflète pas l'institution qui s'occupe de la salubrité d'une ville. Pour les toilettes, je n'en sais pas. Ils luttent contre l'insalubrité, mais chez eux, ce n'est pas ça. C'est un danger pour la santé. La mairie fait des recettes, mais on ne sait pas où va cet argent.
Dans une déclaration à l'occasion de cette journée, Maxime Balalou, représentant le ministre du Travail, a indiqué que le gouvernement est à pied d'œuvre pour garantir la santé et la sécurité des Centrafricains au travail.
Le gouvernement voudrait annoncer le lancement à partir du 30 avril 2022 d'une série d'activités visant à promouvoir une approche flexible de management de la santé et sécurité au travail dans les entreprises du secteur formel et les entreprises du secteur informel.
Les conditions de travail restent précaires en République centrafricaine. Au moment où plusieurs travailleurs se plaignent de ces mauvaises conditions, des solutions sont loin d'être trouvées. C'est un problème qui ne touche pas que les institutions étatiques, mais aussi quelques institutions privées.
Maxime Joël Alaï, dans le débat politique du premier média centrafricain Radio Ndekeluka, vous avez déjà le premier décor des institutions étatiques du pays. Certains observateurs sociaux estiment que les conditions ne sont pas réunies pour permettre aux travailleurs d'être à la hauteur de leur tâche. Comment expliquer qu'hier, les travailleurs n'avaient pas les moyens techniques comme les ordinateurs, l'internet et l'imprimante, etc. Mais ils ont bien fait avec les moyens rudimentaires dont ils disposaient. Mais avec l'avènement des outils technologiques aujourd'hui, la prestation des travailleurs est diversement appréciée. Qu'en dites-vous, M. Zopongile ?
Je voudrais un peu revenir sur le débat parce que tout à l'heure, moi, je pense que mon co-débatteur le président du parti politique de l'opposition a fait allusion au comportement des leaders syndicaux. Mais moi, je pense que cette question-là, nous trouverons l'occasion pour y répondre. Mais pour circoncire les débats, c'est sur les conditions des travailleurs. Je disais tantôt que si les conditions des travailleurs en Centrafrique, c'est mitigé. Les conditions dans lesquelles les travailleurs exercent, c'est mitigé. vous allez me donner raison, parce que quand je pose, je dis, vous avez vu, et le reporter a pris le soin de le dire, dans certaines institutions, vous allez par exemple aux impôts, vous allez voir c'est un grand bâtiment qui est là, qui abrite les gens des impôts, travaillent dans les meilleures conditions. Donc nous le disons que c'est mitigé. Et je dis, par rapport aux efforts du gouvernement, il y a eu beaucoup de réhabilitation au niveau des provinces. Mais dans d'autres cas, dans certains cas, il ne faut pas occulter cette difficulté dans certaines institutions étatiques comme dans certaines entreprises privées. Donc nous le disons que la belle femme ne peut que donner ce qu'elle a. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'esprit. Et je vais revenir sur la question. L'opposition démocratique, comme la majorité, les gens qui sont nos adhérents émanent de la plupart de ces partis politiques. Mais moi, au niveau des syndicats, vous demandez aux travailleurs qui m'écoutent aujourd'hui que aujourd'hui vous n'allez pas défiler pour telle ou telle raison, vous devez être en deux, mais vous allez voir que votre syndicat va être vidé. Le 1er mai, vous allez voir l'engouement qui sera sur... Parce qu'il faut être avec le peuple, il faut être avec la population. Mais l'engouement qui est sur l'avenue de Marty demain, ce n'est pas que c'est les leaders syndicaux, mais vous allez voir les travailleurs dans leur entièreté qui vont marcher, qui vont scander, qui vont faire le truc. L'heure privée, même ce matin, quand vous allez voir les décorations, nous, on est même débordés, tout le monde va être décoré, etc., etc. Donc, ça, c'est la vie du peuple. Et nous, moi, je suis démocrate, je ne peux qu'être soumis en tant que leader syndicaux. Je ne peux pas aller au contre-courant, ramer au contre-courant de la volonté des travailleurs. Ils sont en train de m'écouter. Et ça, je le dis très franchement.
Mais en écoutant tout à l'heure M. Guettel, qui est là, peut-être il peut répondre, c'est que vous ne portez plus, comme auparavant, la voix des travailleurs, les difficultés que rencontrent les travailleurs.
Moi, je pense que, en ce qui concerne le GSTC, nous sommes clairs. Et ça, il faut le dire, nous sommes dans une situation de guerre. Depuis plus d'un an, nous avons dit que nous sommes en guerre. Nous ne pouvons pas porter ces revendications, demander au gouvernement de nous donner 40% de salaire. Aujourd'hui, l'aide budgétaire est supprimée. Dans cette condition, quand vous voyez ce tableau-là, vous allez demander au gouvernement de vous donner 40%, augmenter le salaire.
Et donc, seulement votre revendication se limite seulement au niveau du salaire.
Non, je l'ai dit. Non, l'augmentation de salaire à 40%, vous ne pouvez pas le demander dans ce contexte-là. Même de 5%, vous ne l'aurez pas. Nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, on se focalise, on l'a dit, le gouvernement est en guerre. Nous allons accorder une trêve avec le gouvernement. C'est une question de négociation, on a négocié. Nous avons un cadre de concertation. Au niveau de ce cadre de concertation, on s'est convenu avec le gouvernement pour dire, il faut qu'on vous laisse le temps de sécuriser le pays, amorcer par exemple les négociations avec les institutions financières, organiser ce qu'on appelle le dialogue républicain. Mais à la fin, nous allons remettre sur table ce qu'on appelle nos revendications. Mais c'est simple.
Et la deadline de votre trêve là.
Mais d'ici le mois de juillet, cette trêve va arriver à son terme. Nous allons remettre sur la table du gouvernement ces points de revendication. Je dis c'est simple. Vous allez voir quelqu'un qui vous devait de l'argent et cette personne-là, il a un malheur chez lui. Vous allez lui demander l'argent ? Je repose la question à nos camarades.
Oui, vous avez dépassé largement le temps. Est-ce que M. Guettel voudrait bien répondre à...
Bien sûr.
oui.
Merci beaucoup, M. Armando. Je n'ai pas eu tort de soulever cette question d'entrée de jeu, parce que aussitôt après avoir entendu le témoignage des travailleurs qui vivent vraiment dans leur corps les conditions exécrables de travail, je suis surpris que le représentant des travailleurs puisse vraiment se porter comme l'avocat défenseur des pouvoirs publics. Moi, je pense que ce n'est pas ça votre rôle, M. Zopongele. Ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est un rôle de veille. Si je l'ai parlé, le rôle, c'est le rôle de veille. On ne doit pas attendre le 1er mai pour se prononcer. On ne doit pas attendre le mois d'octobre pour venir dire qu'à l'occasion de la rentrée scolaire, on va poser nos revendications. Et le plus souvent, ça, c'est les choses auxquelles nous sommes habitués depuis 20 ans, 30 ans. C'est pour ça que j'ai parlé de la descente aux enfers, de la vocation syndicale. C'est un truc permanent. Comme à l'époque, on avait vu avec les chenilles collées. C'est des revendications qui sont permanentes. C'est tous les jours que vous devez poser la problématique des conditions de travail et de vie des travailleurs. Aujourd'hui, nous, tout le monde sait que notre pays connaît une crise. Mais ce n'est pas une excuse pour dire que, bon, puisque ça... Dans ces conditions, j'aurais bien voulu dire que puisque le pays est en crise, on ne fête pas. Il n'y a pas de défilé. Et que nous restons à la maison, nous réfléchissons pour... que ce soit des journées de méditation pour les travailleurs. Alors, vous-même, vous contredisez. Vous dites que demain, ce sera une démonstration de force à l'occasion du défilé. Et ensuite, vous revenez pour dire que non, le pays a des problèmes, le pays est en crise. C'est deux points de vue qui s'opposent.
Président,
allez-y.
Non, moi, je pense qu'il faut faire la différence. Moi, j'ai dit que nous avons un cadre de concertation permanente. Et ce cadre de concertation permanente, nous posons, nous dénonçons, nous travaillons tous les jours pour rechercher les solutions aux problèmes des travailleurs. Mais ce que vous voulez... Pour nous, c'est de faire des grandes AG de faire des grandes déclarations, de faire les grèves, etc., etc. C'est ça que le centrafricain, ou je ne sais pas où, l'homme politique veut savoir que les gens travaillent. Mais moi, je dis que nous sommes dans un cadre permanent de négociation et de concertation. Et ce travail, nous le faisons tous les jours.
Vous l'avez déjà
tous
dit.
Les jours.
On va sortir Nous allons parler des conditions des travailleurs, de la prestation des travailleurs. Si vous voudrez bien, je vous donne une minute pour que vous terminez rapidement sur cette question.
J'ai dit, moi, je ne suis que porte-parole. Je ne peux pas ramer au contre-courant de la vie des travailleurs. Vous avez vu qu'on a 20 centrales syndicales. Nous avons les bases. Mais cette question-là, je voudrais bien que vous les posiez à vos militants, que demain, ils vont défiler avec les autres. Demandez à vos militants de ne pas aller, parce que les gens sont tous les hommes politiques, c'est ça. Il faut leur demander de ne pas aller. Parce que la base, c'est quoi? C'est vous, vos éléments de l'opposition, vos éléments de la majorité qui sont nos adhérents. Et je le dis aujourd'hui, et ça, les gens m'écoutent. Quand moi, le Zopongle, je demanderai à mes gars, aux gens de ne pas aller au défilé comme vous l'avez souhaité, le syndicat
attention,
va dire.
Attention, faut pas vraiment pervertir mes points de vue. Je n'ai jamais dit demander aux gens de boycotter le défilé, monsieur Zop. Ah non, ça, il ne faut pas l'insinuer ainsi.
Mais non, en tout cas, je voudrais apporter une précision.
Il y a une confusion, parce que quand on parle de conditions, bon, il y a beaucoup de conditions, puisque c'est au pluriel. Il y a les conditions matérielles, conditions psychologiques, etc., qu'on apporte. Et maintenant, bon, on surfe un peu sur la question de faute. Tout à l'heure, le président de l'opposition démocratique, il dit le pouvoir est en train de récupérer. Mais à la base, s'il faut remonter le cours de l'histoire, c'est parti où la fête des travailleurs? C'est parti des États-Unis, c'est parti d'une grève, Chicago, mort d'homme, et après ils se sont retrouvés 3 ans plus tard à Paris, et à Paris, à l'international communiste. Et c'est de là qu'ils ont décidé de consacrer la journée, puisque le mouvement était parti aux États-Unis le 1er mai, et à Paris, ils ont consacré. Et après, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le maréchal Pétain a pris un décret en France pour consacrer et que c'est ce mimétisme-là qu'on vit en ce moment. Et si vous dites que le politique n'intervient pas, alors quel est le format, la question que je devrais même poser, quel est le format qu'on doit accorder à une fête de travail? Est-ce qu'on doit faire le défilé ou on doit marcher ou on doit faire quoi? Donc chacun, il se trouve que depuis en République centrafricaine, bon, c'est format de défilé. Ça s'organise, le syndicat en collaboration avec le gouvernement, il défile. Est-ce que, bon, on doit prendre, parce que je l'ai écouté tout à l'heure, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on doit poser des revendications? Non, le 1er mai à l'époque, ils avaient posé des revendications précises par rapport à la journée de... Enfin, il y avait 3 revendications. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de loisirs. Ça fait les 3, ça fait 24 heures. Ça veut dire en 24 heures, on doit avoir cela. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, etc. Et donc, ce sont des triples revendications à l'époque aux États-Unis qui avaient déclenché ce mouvement. C'était le 1er mai et c'est comme ça que c'est arrivé. Mais non. Ce que vous dites, quel est le format qu'on doit adopter pour célébrer une fête de... À la base, c'était fête des travailleurs.
Ramenons le débat dans certaines institutions, nombre du personnel est insuffisant. Oui. Mais dans d'autres, comme à l'Assemblée nationale, les gens sont nombreux. Oui. Il manque même de bureaux pour pouvoir travailler. Est-ce que cela peut contribuer à une bonne prestation, par exemple?
Mais naturellement, ça ne contribue pas à bonne prestation. Il faudrait que vous dans les conditions de travail doivent être réunies pour que chacun va correctement à ses obligations. Moi, j'étais conseiller à la primature. Chacun a son bureau. Mais ce phénomène, c'est partout. Il y a beaucoup de personnes, vous savez qu'il faut comprendre que l'administration a été construite depuis l'indépendance. L'indépendance, M. Guettel est bien placé pour le savoir. Il n'y avait pas beaucoup de personnel à l'indépendance. C'est maintenant avec l'accroissement de la population que maintenant, voilà, il y a eu beaucoup d'arrivées sur le marché de l'emploi. Et là, il faudra accompagner par la construction des immeubles. Mais des immeubles ont été construits, on a détruit. Regardez même le building administratif. Et puis on a détruit. On a été obligé de reconstruire. Regardez, moi, j'étais DG de l'ENAM. L'ENAM a été détruit des corps nationaux. Et bon, il n'y a même pas de clôture. Mais petit à petit, on est en train de le faire. À l'Assemblée nationale, oui, il y a pléthore de besoins. Mais vous voyez, à l'Assemblée nationale, on est en train de construire. Le président de l'Assemblée nationale a négocié avec des partenaires. Il y a des bâtiments annexes qui sont en train de construire. Donc d'ici l'année prochaine, tout se voit bien, tous les conseillers seront repartis. Vous allez à la présidence. Regardez à nouveau la présidence de la République. Maintenant, il a nommé des conseillers. Tous les conseillers, même quand je vais là-bas, même la semaine dernière, je vais pour une cérémonie, tous les conseillers jusqu'au chargé de mission sont mieux logés, contrairement à ce qu'on a vu par le passé. Et donc, à la prison, vous savez, il y a pendant est-ce que vous êtes allé voir déjà la salle de banquet ou la salle de cinéma? C'était donc là, petit à petit, le gouvernement attend de faire un effort, Il faut dire diaboliser, regardez, bon, moi je vois que c'est peut-être même Kiri, hein. Chaque fois, bon, on ne fait rien, alors que petit à petit, des gens sont en train d'être posés. Bon, il faut apprécier ça, sa juste valeur. Le développement d'un pays ne se fait pas en 1 ou 2 jours, ou pendant la fête du travail. C'est pas pendant la fête du travail qu'on va poser des revendications, et puis, bac, bac, et puis tout va se dérouler comme si, voilà, un hein,
News.
Simplement, on veut y arriver, il faut se donner le temps
on écoute
Crépin
Gomaï
à la satisfaction de chaque travailleur.
Leader jeune d'opinion dans ce débat, Crépin, les usagers des services publics se plaignent du mauvais accueil, hein, de l'arrogance et du manque de respect de la plupart des travailleurs du secteur public. Constatez-vous cette pratique aussi, M. Crépin?
Ça, c'est une pratique qui vraiment vit au quotidien, hein, surtout en République centrafricaine, parce que c'est un souci à deux niveaux. Le premier niveau, c'est des gens qui ne connaissent pas. On choisit, par exemple, un de ses cousins. On dit, viens, il y a une place ici, tu es là, tu es secrétaire, ou bien tu es là, tu te places à l'accueil, et puis bon, c'est tout. Ça, c'est d'abord le premier souci. Le second souci, c'est des gens qui n'ont pas vraiment de bagage. Ils sont là, ils ont utilisé des petites relations, et ils sont là. Et c'est presque partout, hein. Vous allez dans des administrations, surtout publiques, il y a ce problème-là qui est là. On n'a pas besoin de vous recevoir. On vous regarde et on vous observe comme si vous n'êtes pas une personne, vous n'êtes pas un humain. Et du coup, c'est des soucis qui peuvent, n'est-ce pas, susciter d'autres réactions à la fin. Parce que quand j'arrive, par exemple, dans une administration, je constate ce phénomène. Du coup, je me dis, bon...
On parle de l'habillement, hein, en Centrafrique, on dit s'il faut porter veste, quand tu arrives, on te reçoit rapidement ou pas. C'est tout ça aussi que vous voulez décrire ou bien?
Effectivement, ça c'est un réel souci. C'est un réel souci. Et au-delà de ça, c'est également cette question de cette tranche d'âge. Hein. Quand on est jeune, on arrive dans une administration, on n'est pas très vite reçu parce qu'on se dit, bon, le jeune, il vient ici faire quoi?
c'est
des problèmes qui existent. Et surtout quand vous n'êtes pas en veste, mais bon, ça c'est encore un autre problème. Et je le dis toujours que le seul et unique péché dans cette question, c'est parce que les gens ne sont pas préparés. C'est parce qu'on fait confiance à sa tante, à son cousin, à son frère. Et du coup, on se rend compte que si une personne se comporte de cette manière et que vous remontez par exemple l'information à son supérieur, cette personne ne sera pas sanctionnée parce qu'il s'agit bien effectivement de son cousin. Et du coup... c'est des phénomènes qui persistent en tout cas.
La gabégie, le népotisme, monsieur Guettel, dans cette question.
Avant de revenir à cette question, je voudrais que je ne voudrais pas trop m'étendre sur ce qu'ont exprimé mes deux co-débatteurs. Je laisse le soin à vos auditeurs d'apprécier par rapport à tout ce qui a été dit. Je crois que le comportement que nous décrions aujourd'hui découle d'un phénomène qui est la corruption. Dès lors que la corruption, sous toutes ses formes, a fait sa rentrée dans l'administration, et qu'aucune mesure pour parer à cette situation n'a été prise, alors on a laissé la situation pourrir au point où aujourd'hui, l'administration, c'est pratiquement du business, c'est du copinage, c'est le népotisme et bien d'autres mots que nous décrions tous les jours. Je crois qu'aujourd'hui, moi, Guettel, n'ayant pas la carte du MCU, bien évidemment, quand je suis au bureau, je fais très attention parce qu'en cas de quoi, personne ne sera là pour me défendre. Mais celui qui a sa carte du MCU, ben, il sait qu'en cas de pépin, il y a des voies de recours.
Le MCU, c'est le parti au pouvoir.
Sa carte. Oui, mais bien sûr, lorsque vous êtes. Avant le MCU, il y avait le KNK. Avant le KNK, il y avait le MLPC. C'est des phénomènes que j'ai dit que ça a pris du temps. Ça date pas d'aujourd'hui. C'est pour ça que je parle à mes deux co-débatteurs que lorsque je ne parle pas du régime actuel. C'est des situations que je décris dans le temps. Et souvent, quand je parle de temps, c'est 3-4 décennies. Donc, ça ne date pas pour qu'aujourd'hui, certains se sentent frustrés pour penser que lorsqu'on parle du défilé de demain, qu'on parle du régime de Touadéra, nous parlons des situations qui ont duré depuis des décennies. Et donc, c'est ça que nous faisons. Aujourd'hui, je pense que le jour où les gouvernants vont déclarer la fin de la récréation, comme eux-mêmes, ils aiment le dire, la rupture, en plaçant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, en rémunérant, en récompensant celui qui a le mérite et en punissant celui qui a tort, je pense qu'au bout, on n'a pas beaucoup de temps pour faire. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de crise pour couvrir tout ce qu'il y a comme mot dans notre pays. Il y a des choses qui se font sans argent. Lorsque je prends mon bic pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, M. Ndoui, vous n'êtes plus conseiller à la présidence, ça, j'ai pas besoin de, c'est pas de l'argent.
Mais non.
C'est juste un bic, une feuille. Alors ça, là, est-ce que vraiment, c'est pas possible de le faire? Donc, en le faisant, on a cautionné des pratiques et des pratiques qui pourrissent. Et les gens oublient que ces pratiques-là rejaillissent sur l'image même du régime. Et sinon pas l'image même du président de la République. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas ce qui se comporte là. On dit, c'est le président de la République. Donc, il est grand temps de siffler la fin de la récréation, de remettre l'administration dans le droit chemin. Comme nous l'avons fait à l'époque. Je crois que le compatriote Ndou, il l'a dit tout à l'heure. Dans les années 60, nos papas, là, ils n'avaient pas de doctorat. Ils n'avaient pas de grand diplôme. On les appelait les commandants Yaka, les enseignants, les machins. Mais le pays marchait bien. Pourquoi? Parce qu'il y avait la discipline. Il y avait la peur du bien public. Aujourd'hui, vous êtes là, on vous nomme à une fonction, vous voulez partir, vous ramassez les véhicules de fonction, vous ramassez tout, vous partez. Personne ne réagit. Alors cet argent, on peut l'utiliser pour acheter de l'insecticide. Aujourd'hui, nous parlons du monde du travail. J'ai vu mon compatriote Zo se satisfaire de ce qu'aujourd'hui, les gardes des impôts sont bien lotis dans des bons appartements, ils travaillent bien. Est-ce que c'est ça le monde du travail? Ça fait comment un pourcentage? Lorsqu'on regarde le monde du travail, c'est les agriculteurs, c'est les éleveurs, c'est tout ce monde-là, les ouvriers. Hein? Est-ce qu'on peut prendre des trucs? On va prendre le building pour dire que, bon, comme le building, comme le palais, les gens sont bien assis dans leur bureau, donc le pays va bien. Non, ce n'est pas cet aspect-là, ce n'est pas cette vision qu'on doit avoir. C'est une vision globale pour dire qu'il y a des choses qui se font, mais on encourage le régime à faire plus. Parce que le régime en est capable. Il y a des choses que le régime peut faire sans argent. Et pour remettre le pays dans le droit chemin. Et ça ne se fait pas et c'est ce que nous déplorons.
Nous allons poser une question pour M. Zopungere et M. Ndouyabela. Beaucoup d'observateurs parlent de l'incompétence des travailleurs et donc la question de formation s'impose à ces niveaux. Est-ce que les travailleurs du public subissent de temps en temps des recyclages pour les remises à niveau? D'abord, M. Ndouyabela. Je vous pose cette question parce que vous étiez directeur général de l'ENAM.
Quand je suis allé à la primature, j'ai conduit une réforme dans ce sens. C'était un arrêté interministériel qui avait été pris par le ministre, convoquer tous les acteurs et même comment envisager l'avenir. Et c'est le chef de l'État qui a signé le décret en 2020. En principe, c'est dans le statut général de la fonction publique, ne peut être admis à la fonction publique que des professionnels, c'est-à-dire quand on dit professionnel, c'est celui qui possède tous les atouts pour permettre.
Il ne faut pas quitter seulement l'université avec ton diplôme.
Faut quitter le diplôme, ça c'est pas comme l'a dit, de quel sujet Bettel, oui, je suis entièrement d'accord, c'est pas le diplôme. Il faut professionnel. Ouais, un menuisier, vous lui posez la question, vous dites, voilà, si vous décédez, vous demandez un cercueil, il ne va pas sortir de diplôme. Automatiquement, il fabrique un cercueil et puis vous allongez là dans le cercueil. Parce qu'il a ça, il a les atouts, tout ça là pour permettre de faire son travail. Et à l'entrée de la fonction publique, c'est ça. Et donc, normalement, on ne devait rentrer dans la fonction publique ceux qui sont des professionnels. Or, on a pris l'habitude depuis un certain temps. Ça remonte à 1980. Et là, le jeune, tout à l'heure, il tente de dire, le jeune, le stage, pourquoi faire? Il y a des stages. Il y a le stage de recherche, le stage d'impréhension. Et puis, il y en a qui profitent de stage d'impréhension pour intégrer directement la fonction publique. Et là, ça pose problème. Pour intégrer la fonction publique, il faut passer un concours. Et nous, on a même pris une décision au sortir de la réforme de l'ENAM que désormais, l'entrée dans la fonction publique, en dehors de ceux de l'université, parce qu'avec le doctorat, c'est le conseil d'université qui se prononce pour... Mais pour tous les autres, ou ceux qui sortent de l'ENI, ce sont des professionnels.
Et pendant le dialogue...
Ceux qui sortent de l'ENES, ce sont des professionnels. Là, il n'y a pas de problème. On les recrute parce que l'administration n'a pas besoin de perdre le temps à faire des recyclages. Ainsi, on est en retard. On n'emploie pas quelqu'un pour le former encore. Non, il peut simplement renforcer ses capacités. Il faut être dans cette logique. Nous, on a pris, et comme il a bien raison de regretter, quand on recrute des gens qui ne sont pas au fin du travail, parce que c'est des stagiaires. On dit, bon, par le copinage, bon, venez, le ministre accepte, bon, ça, c'est une pratique qui remonte à trop loin et qui pénalise
le fonctionnement.
Dans
certaines institutions, j'ai même reçu, le ministre, quand il vient, il fait vider ceux qui sont là, voilà, il amène les secrétaires, des cousins, etc.
C'est cette pratique. Il y a un expert, quand j'étais à l'ENAM, il est venu, il a dit, il a fait une mission au niveau des ministères des Finances. Il dit, incompétence, monsieur le DG, vous avez du travail à faire. Parce que les gens ne passent que leur temps à jouer, à faire des jeux sur ordinateur, ils ne comprennent rien. Or, quand on dit, là, les 8 heures qu'on avait revendiquées en 1886, 8 heures, ça doit être rempli par le rendement de chaque individu. Or là, il y en a qui tournent les pouces, qui font seulement des jeux de 7 heures à 15h30, il n'y a pas de rentabilité. Et donc, normalement, comme on le dit, il faut peut-être qu'il y aura une rupture dans ce sens, puisque le chef d'État lui-même a déjà signé. Il faut mettre simplement ça en application. Désormais, tout professionnel doit être recruté parce que là, le concours est organisé en toute autonomie, indépendant, etc. ne peut recruter que les meilleurs, puisque l'administration a besoin des meilleurs.
Pas de gens qui viennent tâtonner parce que...
Je suis entièrement d'accord avec Guité qui l'a dit, c'est une pratique qui ne date pas du régime de... C'est depuis, des stagiaires en recul. Après, j'ai été même au ministère de la Fonction. Ils m'ont dit non. Et c'est quelqu'un, un expert, qui m'a dit non. Au ministère de la Fonction, il dit non. On a habitué à cette pratique, les gens viennent en stage. Puis, alors que, c'est des stagiaires. Et ça, je recherche, ne donne pas droit directement. Non, ceux qui sortent de
l'ENAM. Et même l'ENAM, ce que le
ceux qui sortent,
dit,
oui, ceux qui sortent de l'ENAM directement.
Stage, ça pose problème.
Voilà, ils ont des stages, c'est normal, c'est prévu dans les textes. Pendant la durée du stage, ils bénéficient de leur salaire, etc. C'est tout à fait normal. Mais quand on vient pour des stages d'impréhension, on ne doit pas prétendre directement être recruté dans la fonction publique.
On écoute M. Zopungele sur la même question tout à l'heure de formation. Oui, c'est vrai, même s'ils sont formés, mais il y en a qui passent 10 ans, 15 ans, il faut les recycler.
Non, je pense que sur cette question, monsieur le conseiller a dit l'essentiel. Mais moi, je dois aussi décrier, profiter de ce micro-là pour décrier. Tout cela, c'est des comportements. C'est des comportements et c'est les hommes politiques, il faut le dire, qui nous mettent dans ces difficultés. Et c'est là depuis plusieurs décennies. Ces gens qui sont recrutés, moi je suis chef du personnel, ceux qui sont recrutés, c'est les dignitaires du pays. Comme ils n'ont rien à proposer, ils disent, bon, il faut faire un stage et puis c'est un tremplin pour aller, par exemple, se faire intégrer. Donc, il faut mettre fin, et moi je pense qu'on a fait un travail au niveau du ministère des Finances pour essayer de recenser tous les stagiaires et de mettre fin aux stages qui durent. C'est les stages d'impréhension qui durent dans le temps. Donc, il faut que le gouvernement soit rigoureux pour éradiquer ce phénomène-là. Prendre des mesures pour que ces questions de stages d'impréhension qui durent dans le temps-là, il faut mettre fin. Et puis, les gens qui acceptent, ou les dirigeants, ou les ministères, ou les dirigeants qui acceptent cette pratique-là, ils doivent être sanctionnés. Donc, pour ça, ça va peut-être régler les choses. Mais je dois aussi rebondir sur la question...
Quelques secondes.
Oui, la question de... Qu'on appelle ça la question de la corruption. Cette question de corruption-là, c'est maintenant un comportement. C'est un comportement qui s'est généralisé, et je suis d'accord, et ça repose sur deux choses. Premièrement, et je le dis, c'est le faible pouvoir d'achat des travailleurs. Un travailleur qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins, il va au travail, c'est pour attendre quoi ? C'est pour attendre la corruption. Parce qu'on l'a dit, si quelqu'un est mal payé, si quelqu'un ne peut pas se nourrir, manger trois fois, qu'est-ce qu'il attend ? Il attend de faire avoir un peu d'argent là où il se trouve. Et c'est comme ainsi dit bien la jeunesse. Il est là, au lieu de recevoir les gens, ils font le petit malin pour dire que non, le dossier là, il faut faire les trucs là, pour attendre de l'usager quelque chose.
Donc, et des comportements qui ne sont pas tout à fait sanctionnés. C'est ça qui fait problème.
Oui, des comportements ne sont pas sanctionnés, c'est ça qui fait problème. Mais aujourd'hui, moi je dis, c'est un comportement que nous tous, je dis, à tous les niveaux, syndicats, hommes politiques, tout ça, etc. Vous voyez, on va vers les examens, mais votre enfant viendra vous dire, moi je vais faire le bac, mais papa, il faut me trouver de l'argent. À notre époque, on ne trouve pas l'argent pour aller faire le bac. Moi, je veux faire le BPC, il faut qu'on me trouve de l'argent. Je veux aller composer, il faut qu'on me trouve l'argent. Ça devient maintenant un phénomène, c'est-à-dire un comportement accepté par tous.
Oui, on écoute la jeunesse, parce que le temps nous fait de fois, vous avez largement épuisé. Ouais. Sur cette question, Crépin Boumaé, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, si on le fait, mais aussi la corruption qui gangrène ce milieu, et du coup, ça bloque l'épanouissement de l'administration publique.
L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est une phrase qui n'existe pratiquement pas. Parce que je venais de vous faire comprendre que aujourd'hui Guettel, c'est mon papa, il est quelque part et je suis son fils. Il doit chercher à me placer quelque part, même si je n'ai pas les atouts, même si ses valeurs, ses potentialités n'existent pas. Et du coup, ça peut arriver que je torpille le travail. On remonte les informations, c'est lui le chef, il doit sanctionner. Il ne va pas le faire parce que je suis son enfant, parce que je suis son fils. Ça, c'est un réel souci qui existe. Surtout dans nos administrations. Et le problème que je me pose, le problème qui s'installe ici, c'est cette question de la jeunesse. Parce que au-delà de ces aspects de la corruption qui existe, mais il y a cette jeunesse qui est en train de souffrir. Et il y a cette jeunesse qui est en train de mourir. Parce que aujourd'hui, nous voyons ces choses. Essayons de se poser des questions sur l'avenir de ce pays. Parce que nous, cette jeunesse, nous sommes censés diriger ce pays dans 5 à 10 ans. Mais est-ce que vous voyez un peu le format de la
formation? Vous voulez parler de l'héritage de ce que les jeunes peuvent hériter demain?
Effectivement. Même, je parle sous contrôle de Monsieur Ndjui Abeda qui est là. À l'université, on a des professeurs qui n'ont pas cette possibilité. On ne devrait pas normalement leur donner cette possibilité d'enseigner à l'université. Il n'y a pas cette compétence. Mais on se demande, qu'est-ce qu'ils sont en train de transmettre? Est-ce de l'intelligence? Est-ce de savoir-vivre? Est-ce de savoir-faire? Ils ont quelle valeur? Je pense que ça, c'est des thématiques, n'est-ce pas, qui normalement devraient sortir dans ce débat. Parce que, au-delà de cette question de corruption, mais également cette question de formation qui est là. Parce que nous connaissons, dans certaines administrations, la question de salaire ne fait pas beaucoup de débat pour certaines personnes. Moi, on me paye 50 000 francs. Je m'organise pour me gérer avec les 50 000 francs. Parce qu'il y a cette question de valeur qui est là. Mais bon, ça c'est...
Et il y en a, hein, M. Guettel, qui gagne moins, mais qui s'efforce à avoir plus à travers ce qu'ils font. C'est ce
Zopongere vient de dire. Je pense que c'est vrai, il a fait le constat. Mais le problème de la corruption, c'est un problème éthique. Et donc, la faute n'est pas aux corrompus. Il y a deux situations qu'il faut d'abord voir. Comme l'a dit mon jeune Crépin, à l'époque, dans l'administration, lorsqu'on doit procéder à des nominations, il y a ce qu'on appelle des enquêtes de moralité. Ce que vous venez de dire, ce n'est pas valable pour tous les travailleurs centrafricains. Il y a des centrafricains qui se contentent de leur salaire. Moi, je suis douanier. Mais vous avez vu, on a payé le salaire. J'étais allé faire la queue pour chercher mon salaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des problèmes. Mais vous allez voir certains douaniers qui n'ont même pas ni mon ancienneté, ni mon grade. Quand on paye le salaire, ce n'est pas son problème.
Il y en a qui ne perçoivent pas même.
Ils ne perçoivent même pas leur salaire.
Deux, trois mois.
Ça veut dire qu'il y a des gens qui font bien leur travail consciencieusement. D'accord? Donc aujourd'hui, le gros problème de notre administration, c'est un problème de moralité. C'est un problème de moralité. C'est un problème de gouvernance. Le jour où on va rouvrir ce truc, j'ai eu des contacts avec beaucoup des autorités de ce pays-là. Depuis la primature, présidence, tout ça, où j'ai posé cette question. Est-ce que lorsque vous nommez quelqu'un à un poste, est-ce que vous avez fait des enquêtes de proximité pour voir quelle est la réaction de la population par rapport à la personne que vous venez de nommer? S'il n'y en a pas, ça veut dire que la nomination n'est pas...
On gagne du temps et je vous donne...
Je rebondis. Moi, je pense que c'est bien ce que vous avez dit.
Ouais.
Mais je dis, la corruption, à ce moment-là, moi, je le dis en tant que responsable des travailleurs. Vous allez lire mon discours, ma déclaration, j'ai demandé aux travailleurs d'être assidus. Et de ne pas se laisser entraîner par ce gain facile de la corruption. Je l'ai dit, c'est publié. C'est à tous les niveaux. Donc, c'est dit que c'est un phénomène généralisé.
Et donc, ça veut dire que vous rejoignez M. Guettel qui parle de ce que c'est une question d'éthique. Même ceux qui gagnent plus que ceux qui gagnent moins pratiquent la corruption. Ceux qui gagnent moins, deux fois, ne pratiquent pas la corruption.
C'est pour ça que je dis, c'est un phénomène qui s'est généralisé. Il faut des gros moyens, des gros mots. Si c'est les gros mots, appelle les gros moyens. Il faut un changement de comportement. Donc, il appartient à tout le monde, et aux politiques, et aux dirigeants, et aux syndicats. Moi, dans mon syndicat, j'essaie de travailler dans ce sens-là pour montrer la gouvernance au niveau des partis politiques aussi. Il faut la gouvernance, il faut le changement de comportement. Au niveau des papas, je l'ai dit. Il faut que ça change.
C'est fini. Donc, je vous en prie. Le temps ne fait de fou. Mais en dépit des difficultés énumérées, des travailleurs se plaignent du critère d'encouragement à travers la décoration pendant les fêtes nationales du 1er décembre et du 1er mai. Certains travailleurs n'ayant pas rempli les conditions, mais sont décorés. Hein, et cela vraiment dérange certaines personnes au sein du service.
Chaque année, je pense qu'il y a une fiche de renseignement qui est mis à disposition des travailleurs pour remplir. Et c'est en fonction de ça qu'on envoie au niveau, c'est pas le protocole d'État pour la décoration. Et donc, c'est le ministère, moi je sais, au niveau de l'Assemblée nationale, un peu partout, la fiche est envoyée, ceux qui ont déjà bénéficié d'une décoration en fonction de la durée, et puis on remplit, et puis on décore. Mais ce n'est pas eux, certains ne sont pas décorés.
Est-ce que c'est ce qui se fait, monsieur Guettel?
Et puis il y a des décorations à titre exceptionnel, ça je le reconnais, convient. Et là, tout à l'heure, il a dit.
Bah, majorité quand même.
Oui. Quand lui, tout à l'heure, il a dit avoir la carte de parti, etc. Ça, c'est des décorations à titre exceptionnel. Et que je plains, il faut que je rappelle à M. Guettel, même aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le spoil system. Moi, j'ai été intégré dans la fonction publique pas à travers une carte de parti politique. C'est en fonction de mes compétences, j'ai introduit mes dossiers sous le régime KNK. J'ai été intégré, mais il n'y avait pas de carte de parti. Mais maintenant, par exemple, un chef d'État ou bien un parti politique gagne les élections aux États-Unis, placé ce qu'on appelle le spoil. On compose avec ses militants. Ce n'est pas un défaut.
Je l'ai déjà dit.
Et donc, on compose avec ses militants, donc ce n'est pas mauvais en soi. Donc, c'est
question de décoration, M. Guettel.
Oui, moi, je pense que vous savez que je suis vraiment déçu. Voyez-vous, j'ai pratiquement 25 ans de carrière. Jusqu'aujourd'hui, j'ai le grade d'officier dans l'ordre du milieu centrafricain. Allez vérifier au niveau de la douane. Tous les petits-enfants que j'ai encadrés sont tous commandeurs, grands croix, grands officiers, grands croix. Oui. Bon, ça veut dire que ça pose la question de la valeur d'une médaille dans ce pays. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du 18 janvier pour dire que c'est des fêtes qui sont vidées de leur substance. Hein? Nous qui avons fait 119, on n'a jamais reçu la médaille des martyrs. Vous allez voir des gens qui ne sont même pas nés en 119 qui ont arboré la médaille des martyrs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, que je porte des médailles au poids, je ne vois pas d'importance parce que ça n'a plus de valeur à mes yeux.
Avant de donner la parole sur la décoration à nos deux débatteurs hein, qui sont là, on va prendre les réactions écrites. D'abord, les réactions des Centrafricains, des auditeurs qui nous suivent sur cette question très rapidement avant de boucler la boucle.
Oui, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices, ainsi que les invités de cette émission Patara de Ranoun de Kalouka. Je peux dire, les fonctionnaires safkins sont aussi fiers, dignes de fêter à cette journée du 1er mai, parce que quand tu travailles à la fin du mois, tu auras une rémunération. Cette rémunération te permettra de faire face à tes besoins familiaux. Et dans ce cas, je peux dire, ils doivent être aussi fiers pour fêter cette journée-là. Mais je peux dire aussi non dans le sens que les conditions dans lesquelles travaillent ces fonctionnaires, ces agents de l'État sont vraiment déplorables, très 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 déplorables. Quand tu parcours certains ministères, tu te rends compte que vraiment, même si le gouvernement n'a pas le moyen de construire des nouveaux bâtiments ministériels, mais néanmoins ces anciens bâtiments ministériels peuvent aussi réhabiliter. Par exemple, et cela permettrait aussi à ces gens-là de bien travailler et d'éviter aussi de tomber dans ce genre de corruption ou des voies de données publiques, parce que quand
les agents et les fonctionnaires de l'État travaillent dans de mauvaises conditions, mais cela ne veut pas dire que les agents et les fonctionnaires de l'État ne doivent pas fêter la fête du travail. Ils doivent fêter la fête du travail sans condition, car tout le mois, ils perçoivent de salaires versés par l'État centrafricain. Donc, ils ont l'obligation de fêter la fête du travail. Même ceux qui sont affectés dans leur lieu de travail ne vont pas. Ils restent là où ils sont, mais ils perçoivent de salaires de l'État. Donc, selon mon avis, les Centrafricains et les fonctionnaires de l'État doivent fêter cette fête de travail sans condition. Moi, je suis José Appelé Yabouzou. Mon avis, les Centrafricains travaillent dans de mauvaises conditions.
Bonjour Armando, bonjour les auditeurs. Moi, c'est Clovis depuis Votombo, Bouira. C'est vrai que les gens œuvrent beaucoup pour le travail en RCA, mais ce qu'on peut déplorer, c'est que les gens ne respectent pas les heures de travail. Mais si on regarde un peu du côté des humanitaires, tu vois, quand tu arrives, même à l'entrée, les gardiens te pointent ton arrivée. Et à la sortie, dès que tu effectues un mouvement hors du bureau, on te pointe. Et à la fin, si on constate que tu es absent pendant quelques temps du bureau, qui n'est pas justifié, on te coupe le salaire, tout ça. Et du coup, ça fait que les gens sont obligés de se pointer au travail à temps et ils terminent le travail à l'heure prévue. Mais quand tu regardes du côté de l'administration publique, c'est vraiment tout le contraire. Les gens arrivent souvent au bureau à 10 heures, ils partent comme ils veulent, personne ne va les surveiller. Du coup, ça fait que le travail en RCA n'avance absolument. Quelqu'un peut déposer un dossier, tu vas voir que le dossier va traîner pendant des mois. Et on va dire à cette personne-là de repasser jusqu'à ce que la personne soit fatiguée. Et tu vois, ça ne pose pas aussi bien. Mais ce que je vais demander peut-être aux Centrafricains, c'est de beaucoup œuvrer dans le travail. C'est vrai que le travail, c'est le travail qui libère l'homme, que chacun de nous doit se donner à fond pour qu'on puisse faire avancer notre pays qui est la RCA. Et je souhaite bonne fête de travail à tous les travailleurs centrafricains et à ceux du monde entier. Merci.
Merci beaucoup et à vous de même. Réaction écrite de M. Adam Bréman. Selon lui, le travailleur centrafricain n'est pas respecté ni par l'inspection de travail ni par l'État. Les droits des travailleurs sont bafoués, ils ne sont pas bien payés. Deux fois, les pensions des retraités ne sont pas versées. Et selon Adam, la corruption bat son plein dans des institutions privées. Par conséquent, pourquoi célébrer la fête de travail, se demande-t-il. Pour Passima Andiago, les fonctionnaires centrafricains ou autres agents de l'État participent à la commémoration au même titre que les autres travailleurs du monde. Nonobstant la situation à laquelle ils sont confrontés dans le pays, d'après M. Andiago, l'intervention des organisations syndicales à ces occasions concourt à l'édification et à la consolidation de la démocratie dans le pays. Voilà tout comme réaction des auditeurs de tous ces qui précède hein, les manquements évoqués par chacun de nous autour de cette table. L'on se demande si les fonctionnaires agents de l'État méritent de célébrer la fête du travail. Monsieur Zopongile, 30 secondes.
Oui, moi je pense que tout ce que les auditeurs, c'est leur opinion. Je respecte les opinions des uns et des autres. Mais je l'ai dit à l'entrée de jeu que la situation des travailleurs centrafricains est mitigé. J'irai sur ce point parce qu'aujourd'hui, vous savez, comme on l'a toujours dit, il y a plusieurs décennies, le paiement régulier des salaires, des pensions et des bourses était une casse-tête. Aujourd'hui, il y a un léger mieux. Donc, la plupart des Centrafricains qui vont fêter demain, j'espère qu'ils sont payés. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut retenir ici, il y a certains auditeurs qui ont raison, et ça, nous le disons, nous partageons cet avis-là. Là, beaucoup de Centrafricains ne vont pas au travail à l'heure, ils ne terminent pas à l'heure. Ils vont seulement, deux fois, se pointer et faire de...
Nous avons deux minutes pour partager à tout le monde. Donc, merci de nous dire l'essentiel. Oui, M. Crépin Mbomaye, sur cette question, vous avez écouté les auditeurs. Quelle réaction faites-vous de cela?
Permettez que je puisse revenir un peu sur cette question de médaille qui est en train de perdre effectivement sa valeur. J'ai un oncle au quartier, affecté à un délai depuis 2 ans. Il a refusé d'y aller. Demain, il sera décoré. Ça, c'est une précision à faire. Voilà. Et également, je reviens de Bria, où un professeur enseigne depuis la classe de 6e jusqu'en terminale. Il a fait 2, 3 ans là-bas. Et il n'est pas décoré. Vous voyez, ça, c'est deux précisions que je tenais à apporter. Alors, parlant de cette fête, je pense que le format est là. Mais on peut aussi modifier, on peut aussi changer de format. La vérité n'est toujours pas celle de la majorité. C'est bien vrai qu'hier, on a cette habitude de fêter en défilé, mais aujourd'hui, on pourrait être autour d'une table pour réfléchir, pour pousser des grandes actions au bénéfice de cette jeunesse.
Désolé, le temps nous fait défaut, M. Guettel. Quelques
Merci,
secondes.
Merci, M. Armando. Je pense que je n'ai pas grand-chose à dire. Je pense que c'est un pays de paradoxe, comme on dit la République africaine, comme a dit notre défunt compatriote Zarambo. Je crois que en Centrafrique, aujourd'hui, on est en perte de repères et de valeurs. Quand vous arrivez à des places mortuaires, vous voyez, les gens, c'est la bamboula dans les places mortuaires. Alors que c'est des places où on doit se recueillir, pleurer, tout et tout. Mais aujourd'hui, c'est un paradoxe sur nous. Donc, ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, malgré la misère des travailleurs, que certains aillent défiler, se réjouir, comme si tout va bien. Donc, je pense que c'est ce que je peux faire comme commentaire.
Monsieur Alexandre Yaboula.
Merci Armando, je souscris entièrement à ce que les auditeurs ont dit. Il y a un laxisme au niveau de l'administration, tant en ce qui concerne la durée. Un laxisme vraiment constaté qui est regrettable. Il faudrait que peut-être les autorités essaient de mettre un peu de la rigueur pour permettre aux uns et aux autres de s'acquitter de leurs responsabilités et pour le développement de la République centrafricaine. C'est vrai, vous voyez, j'ai écouté, j'ai suivi l'auditeur, il a dit oui, il faudrait que chacun apporte sa contribution. Dans chaque administration, vous voyez, moi j'ai été nommé, j'ai trouvé un endroit très clair à la primature. Très sale, crade, comme on le dit. Et moi-même, je me suis mis en tant qu'ancien, parce que bon, quand j'étais étudiant, je faisais petit boulot, j'étais agent d'entretien. Moi-même, conseiller, je me suis mis à 4 pattes. J'ai acheté les produits, comme je suis spécialiste en la matière. J'ai nettoyé le bureau, et puis quand les gens rentrent, on pense que c'est l'agent d'entretien qui va travailler. Non. Chacun de nous doit, ça, on ne doit pas tout attendre de l'État. J'ai été nommé un poste de responsabilité en tant qu'agent d'entretien. Et le problème pour nous, quand on déplore les conditions, tout ça, c'est nous-mêmes. Il y a un problème, c'est le problème d'entretien. On peut construire, faire de tout ça. On n'a pas la mentalité d'entretenir les locaux ou les bâtiments qu'on met à notre disposition. Regardez le stade 20 000 places. C'était très bien au départ. Maintenant, quand vous y allez,
sinon, toile d'araignée, etc.
La notion d'entretien n'est pas dans le subconscient des Centrafricains. Et donc, on ne fait pas tout. On dit c'est l'État doit être partout pour contrôler les uns et les autres. J'ai apprécié la réaction de l'auteur qui a dit chacun de nous doit apporter sa contribution pour que tout aille.
Monsieur Alexandre Duyabela, monsieur Firmin Zopongiré, Crépin Gbomaye, monsieur Guettel Dinamkor, ainsi s'achève ce nouveau numéro Patara, le débat politique, le tout dernier du mois d'avril 2022. Il était consacré aux conditions de travail et la qualité de service dans les institutions publiques de Centrafrique. Merci à toutes et à tous d'avoir pris part à ce rendez-vous. Merci à nos invités Crépin Mbomaye, jeune leader d'opinion et secrétaire général adjoint du colloque des étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Bangiko Flèche-Ba. Merci d'être venu, monsieur.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Armand.
Merci aussi à vous, M. Femez Opongré.
Merci.
Secrétaire général du groupement syndical des travailleurs de Centrafrique. Merci aussi à vous, Alexandre Yaboula.
Merci et bonne fête de travail à tous les travailleurs du secteur public et du secteur privé.
Voilà, cadre.
Sans oublier les travailleurs agricoles.
Cadre du parti au pouvoir MCU et conseiller politique du président de l'Assemblée nationale, Sosten Guettel Dilamkoro. Bien, merci à vous, président du parti panafricain pour la liberté et le développement, membre de l'opposition.
Merci beaucoup, cher compatriote.
À
Armando Yangendi, c'est moi. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur www.radiondekeluka.org. La technique était assurée par Anne-Alix Pounemati. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne fête du 1er mai et Barka des Salles par anticipation aux musulmans de Centrafrique et à ceux du monde entier. Prenez soin de vous car on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Au revoir.